Québec.com.
FM 93. Ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville. 93. Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93. Ça me parle.
Égal la voix, le midi.
Ici Myriam Segal. Légionnaires, plus d'argent aux victimes et moins aux avocats. Un théâtre mis à l'amende pour une cigarette sur scène. L'attaque informatique contre le transport adapté, ben ça reste cauchemardesque. Et seulement 54% des Français veulent stopper les gilets jaunes.
FM 93, ça me parle. On développe les dossiers, les enjeux sociaux, la vie en général. FM 93, vous écoutez, Ségal Lavoie, le midi.
Allô, Luc Lavoie.
Allô, allô, Myriam.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Oui. Depuis que tu m'as parlé de la façon dont certains bureaux d'avocats inventent, à toute fin pratique, des recours collectifs...
Ben, ils inventent. Ce qu'ils font est légal. C'est la loi qui leur permet d'agir ainsi. C'est l'effet pervers de cette loi-là.
Oui, qui devait permettre à David d'écraser Goliath un petit peu, là. Puis qui, au bout du compte, permet à des bureaux d'avocats de devenir millionnaires en portant des causes qui auraient peut-être pas été portées devant les tribunaux sans ça.
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, mais d'un autre côté... Ces bureaux d'avocats-là, et je veux pas me porter à leur défense, mais il faut comprendre un peu le système. Ils vont prendre un dossier, puis ils vont travailler dedans pendant 3 ans de temps sans recevoir un sou de quiconque. Alors, ils font un pari. C'est comme un investissement. C'est l'investissement de leur temps. Et en bout de compte, s'ils gagnent, le recours collectif, ben ils prennent des honoraires très généreux.
Et tellement généreux que ce matin, il y a un juge qui a baissé les honoraires des avocats dans le dossier de la légionellose.
Et il les a baissés d'une façon extrêmement importante.
Écoute, il y avait 7,5 millions de règlements. Là-dessus, 30 % s'en allaient aux avocats.
Oui. Ce qui est à peu près dans ce qu'on trouve dans les recours collectifs.
Et le juge a dit, wow, les moteurs, ça va être 18 %. Ce qui veut dire que les victimes vont se partager 750 000 $ de plus.
750 000 $ de plus, oui. Oui,
c'est ça. Les victimes vont avoir 750 000 $ de plus. Ils devaient avoir 5,4 millions, puis ils vont avoir 6,2 à peu près.
Ça place les avocats dans une étrange situation parce que c'est Jean-Pierre Ménard qui menait ce recours collectif. Je connais bien Jean-Pierre Ménard, c'est un gars très intègre et tout. Qui a fait beaucoup pour faire avancer le droit dans le domaine médical. Il ne fait pas que du recours collectif, il en a fait dans ce cas-ci. Mais lui, je sais pas, là, c'est, si je tiens pour acquis que les avocats ont agi dans l'intégrité, c'est-à-dire qu'ils ont marqué leur temps à la seconde, à la minute près, puis qu'ils arrivent au montant qu'ils réclamaient, puis que là, ils leur coupent de 750 000, il doit avoir une raison, le juge, pour arriver à ça. C'est ça que je veux dire. Mais l'avocat, lui, il est mal pris, c'est-à-dire qu'il peut pas aller en appel. Ça a presque pas de bon sens. Comment tu fais pour aller en appel? Tu stoppes le recours collectif, tu dis, je m'en vais en appel. Tout est gelé. Vous, les soi-disant victimes, vous ne saurez rien tant que mes horaires ne sont pas réglés.
Ouais.
Bon.
C'est.
Mais ça, d'un autre côté.
Mais récemment, rappelle-toi, là, c'était quoi le recours collectif qui avait été mené par le bureau de Lucien Bouchard? Il me semble, c'est le recours collectif sur les frais scolaires.
Sur les frais scolaires, voilà.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, moi, je suis censé recevoir 25 $ par enfant à partir du mois de février. Il faudrait que j'appelle leur dire que j'ai changé d'adresse, si je veux recevoir mes chèques, en tout cas. On est censé recevoir 25 $ par enfant par année, où ils ont fréquenté l'école durant ces années-là. Au bout du compte, là, les avocats ramassaient, il me semble que c'était pas loin de 30 % et ils avaient spontanément baissé leurs frais. J'ai l'impression que même les avocats voient que les gageurs qu'ils prennent, là, il y a une limite à ce que tu peux faire gager à un juge. Et l'autre élément qui m'intrigue dans le cas de la légionellose, c'est que le juge a dénoncé le manque de transparence de l'entente.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça... Écoute, j'ai pas eu le temps de voir les détails du jugement, mais j'ai trouvé ça un peu particulier.
Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu beaucoup de dossiers d'expertise déposés au dossier.
Oui.
Et que toutes ces expertises-là viennent de tomber raide morte. C'est-à-dire qu'elles ne seront jamais publiées.
Ah, je comprends.
Tu comprends?
Oui.
Donc, ce qui permettrait au public de juger si il y a des gens qui ont été dans le tort là-dedans, parce qu'ils n'admettent pas leur tort. Ils payent, mais ils n'admettent pas leur tort. Donc, ce qui permettrait au public de juger de l'histoire n'est pas rendu public. Puis c'est déjà arrivé. Dans le déluge du Saguenay, il y avait eu une poursuite de 10 millions de dollars contre une compagnie et contre le gouvernement. Et au bout du compte, avant le procès, on a réglé hors cours. Et la condition, c'était que tous les rapports d'experts deviennent propriété exclusive du gouvernement et tenus et gardés à huis clos. Autrement dit, on n'a jamais su ce que les experts auraient dit pour en arriver au règlement qui est arrivé.
Mais quelle avait été la suite de ça, Myriam?
Ben, les victimes avaient été dédommagées. Il y avait eu un règlement hors cours. Autrement dit, tu sors le cash, tu payes, puis en contrepartie, il n'y a jamais rien qui va permettre au public de juger si tu avais tort ou si tu avais raison, hormis l'argent que tu verses. Mais tu sors le cash pour mettre un couvercle sur la marmite puis éteindre le feu en dessous.
Ouais.
Mais la marmite, là... ce qu'il y a de puant dans la marmite reste dans la marmite, autrement dit.
Oui, mais c'est un peu la nature des ententes hors cours. C'est ça.
Oui. Mais il y a quand même, il y a parfois des ententes hors cours où les rapports d'experts sont quand même rendus publics.
Ouais. Écoute, il faudrait vraiment que je me penche sur les tenants et aboutissants de ça. J'imagine que si les rapports d'experts deviennent publics dans certains cas, c'est parce qu'il y a eu une partie de la procédure qui est en public. Tu comprends? Ouais. Tu peux faire une entente hors cours à moitié chemin du procès. Tu peux faire une entente hors cours une journée avant la fin du procès, si tu veux. Tu peux demander à la dernière journée du procès, dire, monsieur le juge ou madame le juge, je voudrais, s'il vous plaît, arrêter ça ici parce qu'on
Mais là, cette entente de cours-là arrive avant le procès. Donc, il n'y a rien.
Donc, il n'y a pas eu de public. Il n'y a rien eu de public. Le dossier n'est pas public.
Moi, je pense que pour qu'un juge dise ça manque de transparence, c'est qu'il y a effectivement quelque chose là-dedans qui ressemble à un gros couvert sur une marmite de marbre.
C'est clair que ça met la puce à l'oreille, disons.
Disons. La bonne nouvelle, cependant, c'est que les victimes en auront plus et les avocats un peu moins.
Bon.
Autre information du domaine juridique. Gilbert Rozon, c'est notre collègue Monique Néron au FM, au 98.5 à Montréal, qui a appris que actuellement le DPCP, la Direction des poursuites criminelles et pénales, donc la couronne, si tu veux, est en train de rencontrer une à une les plaignantes contre Gilbert Rozon est en train de leur dire vous on y va et vous on y va pas.
Oui.
Autrement dit, on porte des plaintes officielles, puis vous allez devoir témoigner, puis etc. Ou non, on y va pas. Et selon les informations de Monique Néron, quatre femmes qui ont déjà été rencontrées par le DPCP se sont fait dire on n'ira pas au tribunal avec ça.
Mais celle qui avait frappé l'imaginaire d'un peu tout le monde, c'était Patricia Tulane.
Oui.
Qui avait joué à visage découvert en plus et qui... Et elle, ils l'ont pas encore rencontrée. Et j'ai cru comprendre que ce sera peut-être la dernière, parce que c'est en fin d'après-midi, je crois, qu'elle les rencontre.
Il y a des cas comme Julie Snyder, ça s'est passé en France il y a longtemps. Les témoins sont difficiles à retracer, etc.
Ben,
moi, je m'attends à ce que...
C'est surtout que ça s'est passé en France.
Je m'attends à ce que ce ne soit pas possible, dans ce cas-là, d'aller démontrer hors de tout doute raisonnable, parce que c'est ça une plainte criminelle, là. C'est hors de tout doute raisonnable, ça s'est produit et c'est de sa faute.
Oui, mais en plus, il faudrait qu'il y ait une enquête de la police française.
Ouais.
Les policiers canadiens ne peuvent pas s'en aller en France puis faire témoigner ou interroger des gens qui auraient été témoins de quelque chose.
Ça fait que ça ne m'étonne pas qu'ils ne retiennent pas toutes les plaintes.
Moi non plus.
Il suffit qu'ils en retiennent deux ou trois solides.
Même une solide.
Puis tu sais,
toi,
tu parles de Patricia Tulane, mais avant elle, à visage découvert, sans pression, parce qu'il n'y avait pas le mouvement, là, il y avait la réalisatrice,
Charlebois.
Lynn Charlebois, c'est-tu ça?
Ouais.
Qui avait raconté en détail aux journalistes de 98.5 et du Devoir, je pense. L'agression qu'elle avait subie. Puis là, il n'y avait aucune influence externe. Elle est la première à être sortie.
Ah bon, je la mets un peu dans la même catégorie que Patricia Tulane. C'est que Patricia Tulane avait donné une entrevue ma foi calme, mais très remplie d'émotions. Ouais. Et moi, je m'en souviens de cette entrevue-là, ça m'avait choqué.
Sauf qu'un témoignage, ça reste un témoignage. Le problème ouais. dans ces agressions-là, c'est les preuves matérielles.
Il faut que tu le prouves, c'est-à-dire
c'est ça.
Que,
et hors de tout doute raisonnable.
Et hors de tout doute raisonnable.
C'est le défi. C'est pour ça que même si certaines plaignantes sont écartées au niveau criminel...
Elles peuvent poursuivre au civil, oui.
Le civil, non, peut très bien le reconnaître coupable et l'obliger à payer ces plaignantes-là, parce que au civil, c'est ce qu'on appelle, je pense, là, les avocats corrigeants. C'est ça, la prépondérance de preuves. Donc, il faut que ça ait vraiment l'air de ça.
Ouais,
la notion de doute raisonnable existe beaucoup moins.
Existe
pas du tout?
En droit civil, non.
OK. Donc, il faut qu'il prouve qu'effectivement... C'est d'ailleurs comme ça qu'O.J. Simpson a été reconnu coupable.
Il a été acquitté
au criminel, mais au civil, il a dû dédommager les familles de ses victimes.
Donc, on disait qu'il l'avait fait. Non, ouais. c'est ça, le droit.
Ouais. Donc, Gilbert Rozon, là, on est dans les derniers milles. Ce que je comprends, c'est qu'après ça, les accusations, si tant est qu'il y en ait, vont être déposées dans les prochaines 24-48 heures, enfin, d'ici la fin de la semaine.
Ben, d'abord, je ne sais pas si le DPCP fait ce type de démarche très souvent. J'en suis un peu étonné, même. Peut-être ouais. est-ce parce qu'ils veulent contrôler la médiatisation de l'affaire, l'incompréhension que ça pourrait causer, ainsi de suite. Je trouve que c'est... je dis pas que c'est mal. Je dis juste que j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir entendu que le DPCP, les avocats de la Couronne, aient agi ainsi.
Ben, règle générale, tu sais, c'est pas arrivé souvent, là. Qu'un homme public, connu, reconnu, une espèce d'idole dans son domaine,
oui.
soit accusé d'être un violeur en série?
Ah ben non, c'est clair que c'est pas arrivé souvent. Maintenant, Gilbert Rozon, comme n'importe qui, quoi qu'on en pense et quoi qu'on... quelles que soient nos conclusions personnelles, il a le droit de défense. Il a le droit de défense.
Peut-être qu'ils le font, le DPCP, quand il y a, par exemple, des plaintes contre, je vais dire n'importe quoi, contre un curé là qui a fait du dégât. Là, je pense au gars du Saguenay qui a été reconnu coupable, qui est mort récemment. Là. Bon, peut-être qu'ils le font, ces rencontres-là, mais que c'est pas publicisé. Dans le cas de Gilbert Rozon, tout est public, le nom des plaignantes, tout est public.
Notre collègue Monique Néron a fait un excellent travail dans ce dossier-là. C'est elle qui est derrière tout le dossier et les révélations. Mais j'imagine que ces sources, ce sont les dames qui ont été rencontrées par le DPCP.
Et ce qui est aussi intriguant, c'est que dans le cas de d'Éric Salvaille, je pense que ça fait 15 mois que le DPCP a le dossier en main.
Y a-t-il même une plainte criminelle contre Salvaille? Pas sûr de ça, Myriam. Attention, pas sûr.
Selon les informations qui sont publiées...
Il se peut que j'ai tort, mais je ne pensais pas, je ne pensais pas qu'il y avait une plainte criminelle ou une enquête criminelle le concernant.
Selon les informations qui sont publiées ce matin, le DPCP a en main un rapport de police sur Salvaille.
Ah bon.
Bon,
très bien.
Mais tu sais, ça, je te l'avais dit, avec l'arrêt de Jordan, là,
oui.
il doit se passer moins de 18 mois entre la mise en accusation et le procès.
Puis le procès, oui.
Alors, dorénavant, ce à quoi on va assister de plus en plus, c'est des enquêtes qui durent très longtemps.
Oui, parce
que la couronne veut être sûre d'avoir en main tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à demander de complément d'enquête avant de déposer les accusations, pour être sûre qu'elle va être capable de respecter le délai.
Puis aussi pour ne pas donner de prise à la défense qui pourrait prendre une preuve un peu... disons, un peu douteuse, puis la mettre en doute, puis aller en appel, puis patati patata.
Mais comprends-tu que le délai, on l'a juste déplacé? On a déplacé le délai avant la mise en accusation, au lieu d'être entre la mise en accusation puis le procès.
Ouais.
On a juste déplacé le délai, on l'a pas réglé, là.
Ben oui.
OK,
Il y a une différence, quand même. Il y a une différence, là. On a déplacé le délai, mais la personne qui est sous enquête, il se passe rien. C'est fatigant de se savoir sous enquête avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais c'est encore bien plus fatigant quand t'es formellement accusé, que ça devient public, puis que ça fait 3 ans que ça dure. Donc, il y a quand même eu amélioration du sort des victimes.
Des victimes?
Pas des victimes, des justiciables.
Ouais. Je suis pas sûr, c'est justiciable.
Justiciable, là, je cherchais le C, là.
Je suis pas sûr, c'est une grosse amélioration.
Ben.
Hey, tu me permets-tu de rire de Québec solidaire un petit coup?
Ah ouais, donc.
OK.
Ton parti, c'est ton parti, tu peux faire ce que tu veux.
Mes préférés. Québec solidaire, hier, après la défaite, leur défaite dans Roberval, tu sais que la CAQ est passée dans Roberval comme une balle, là. Mm-hmm. Ils ont eu, attends un peu, c'est...
50% du vote.
50% du vote en montant, là, ça a été vraiment... C'est 54%. 54%. Et le PQ est arrivé deuxième à 17%. Le Parti libéral, qui était représenté par un conseiller municipal qui dirige notamment une grosse histoire à succès au Lac Saint-Jean, qui est le Festival du Cowboy de Chambord, est arrivé troisième avec 15%. Puis Québec solidaire est arrivé quatrième avec 10%. Ah. Et là, Manon Massé, ce matin, elle émet un communiqué dans lequel elle se scandalise. C'est épouvantable ce qui leur est arrivé, là. Elle se scandalise du taux de participation extrêmement bas de 34%. C'est la faute à l'hiver, puis parce que le méchant François Legault, il a déclenché des élections partielles en plein hiver de même dans Roberval.
Faut-tu être con pour dire une affaire comme ça? En fait, le problème des élections partielles, c'est quand le premier ministre les déclenche. Bon, ça, c'est antidémocratique.
C'est ça. Il a dit, il y a une place de libre, il y a des gens qui ont le droit d'être représentés, bagne, on y va de suite.
C'est ça, on joue pas avec les dates, puis les ci, puis les ça, c'est le temps. Là.
Alors, le taux de participation inquiétant, dit Manon Massé, puis il vous fait des reproches, etc. Je t'épargne le détail du communiqué. J'ai été fouillé un petit peu, il y a un certain 29 mai où, c'était pas en hiver, hein, où un certain Gabriel Nadeau-Dubois a été élu dans Gouin.
Ouais.
Le taux de participation était de 32%. Je me rappelle pas que Mme Massé ait déchiré sa chemise à la place publique.
Elle a pas parlé beaucoup cette fois-là. Hein?
32% en plein mois de mai dans Gouin. Ça, c'est acceptable tant que Gabriel Nadeau-Dubois passe.
Mais, moi, je te le dis,
mais 34 dans Roberval en plein hiver. Ah là, c'était écœurant.
Myriam, désolé, mais ton parti, là, je l'aime pour une chose. D'abord, parce que tu en fais partie. Juste ça m'attire.
Puis d'autre arrête part, de dire ça, ils vont me sacrer d'or.
Voyons donc, il n'y a pas d'idéologie dans la radio. Qu'est-ce que tu fais là?
Non, mais moi, j'aime la transparence, puis les débats, je les préfère publics.
J'avais une idée de génie, puis je l'ai perdue. Là, j'étais en train d'avoir une... Ah oui, j'allais dire, j'aime Québec solidaire. Parce qu'ils amènent une touche divertissante à la politique. Tu sais, c'est comme une forme de divertissement. Entertainment. Show business. Je les aime. J'adore ton parti, Myriam.
Ben, en tout cas, il suffit de vérifier, puis ça prend pas beaucoup de temps pour les confondre. Ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte, comme dirait l'autre.
Comme dirait Mme Massé.
Il est 11.